19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir chers amis auditeurs, bonsoir, vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver comme chaque soir. Chaque soir ici même, on commente, on analyse, on décrypte l'actualité. Et c'est parti pour ce soir, vous le savez, jusqu'à 20h. 20h où vous avez une totale liberté d'expression, c'est vrai, et vous le savez, je la défends régulièrement ici tous les soirs. Alors au sommaire de cette émission, qu'est-ce que je vous ai bien concocté? Alors que de belles surprises, figurez-vous. Tout d'abord, nous allons nous retrouver Pascal Boniface, la signature de la géopolitique qui va ouvrir l'antenne avec notamment, vous savez quoi, direction les États-Unis et l'OTAN. On en parlera dans une poignée de secondes avec le patron fondateur de l'Institut Léris. Et puis, sur ce plateau, que du beau monde, parce que figurez-vous, celui que j'avais pas retrouvé depuis un moment, eh bien, c'est son retour un peu, c'est Jérôme Rodriguez, vous savez, cette fameuse grande figure emblématique des Gilets jaunes. Il a décidé de revenir dans le paysage. Pour quelle raison? On en saura un peu plus tout à l'heure. Autre figure emblématique, c'est Fawzi Lelouch, qui est venu armé. Mais armé, vous savez quoi? Avec Demsemen. J'adore, je kiffe. Il est au petit soin, franchement. J'ai un énorme respect pour Fawzi Lelouch parce qu'il est venu avec Demsemen, ces fameuses crêpes franco-maghrébines, du miel, de la confiture. Bref, il nous met bien. Merci Fawzi. Merci. Quel plaisir. Gamal Abina est avec nous aussi, hein, le porte-parole du mouvement MDC. Mmh. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit MDS. Et puis Hassan Bembaraï qui est avec nous aussi, un militant. Et puis vous aussi, sans oublier, 0153483000. Vous êtes très nombreux à venir évidemment chaque soir ici pour commenter l'actualité, les sujets qui ont retenu notre attention. D'abord, vous savez que ça sonne pas très bon avec les agriculteurs, parce qu'il y a eu la rencontre avec le président de la République et puis la colère des agriculteurs qui continue, la colère rurale qui considère qu'aujourd'hui, eh bien, le président de la République et l'exécutif n'ont pas encore rempli évidemment tout le cadre. On en parlera. La grève SNCF. Ça sent pas bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour ce week-end, si vous comptez prendre le train, ça risque d'être compliqué. Oui, un train sur deux, bref, ça va être très très compliqué. Je peux vous l'assurer d'ores et déjà, les trains sont complets. Complet. Si vous arrivez à en choper un, c'est que vous avez de la chance. On reviendra aussi sur un sujet qui inquiète énormément. Netanyahou promet une puissante opération à Rafah. Sauf que de l'autre côté, eh bien la communauté internationale, pour le coup, elle commence à s'inquiéter. On parle d'une trêve d'un côté, on parle de poursuite de l'autre. Bref, qui aura raison, qui aura tort? Eh bien, on en parlera tout à l'heure avec nos débatteurs influenceurs. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés, le face-à-face.
Le Quoi de Neuf avec Pascal Boniface.
Il est pas là?
Ah, le Quoi de Neuf, ah ben on l'a, il a dû partir. Ben on va le rappeler, c'est pas grave, on va le rappeler. Je vais présenter tout de suite nos débatteurs influenceurs. Jérôme Rodriguez, quel plaisir de vous accueillir et de
le retour.
Comment ça va?
On fait aller, merci.
D'abord, comment allez-vous d'abord? Parce qu'on s'intéresse à vous.
Physiquement, ça va. On s'est préoccupé ces derniers temps de remettre un petit peu d'aplomb la santé physique. Après, psychologiquement, c'est un peu plus compliqué. On fait face à quelques adversités, mais on va dire que ça va.
Vous revenez un peu sur le devant de la scène?
J'ai cru...
On dirait qu'il y a une poussée, hein, quand même. Hein.
J'ai cru comprendre qu'au final, à un moment donné, quand tu es piqué par le militantisme et que tu as l'impression que ton combat est juste, tu as du mal à arrêter parce que quelque part, tu vas abandonner tous ceux qui sont rentrés dans le combat avec toi. Il faut savoir qu'au niveau de ce qui m'est arrivé, j'ai reçu énormément de soutien et j'aurais vraiment l'impression de délaisser tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux avec qui on a combattu, comme Fawzi à mes côtés. J'aurais l'impression d'être un déserteur, si tu veux, et que quand on s'est engagé dans un combat, on m'a toujours appris à finir mon assiette. J'aimerais bien qu'on finisse le travail, quelque peu.
Eh bien, on va continuer d'en parler. Tout de suite, c'est le Quoi de Neuf.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Pascal Boniface, bonsoir. Pascal Boniface, bonsoir. Vous est avec nous en
bonsoir.
Direct. Bonsoir. Comment allez-vous
tout d'abord? Très bien, merci.
Très bien. Plaisir de vous recevoir exceptionnellement ce soir, non pas à 19h50, mais à 19h. On ouvre l'antenne avec vous, le Quoi de Neuf. Et je vous lance pour votre billet d'humeur concernant Trump, me semble-t-il, et l'OTAN.
Voilà, alors Trump a lancé un pavé dans la mare, puisqu'au cours d'un meeting électoral aux États-Unis, dans sa campagne, il a déclaré qu'il y avait une sorte de dialogue imaginaire avec un dirigeant européen qui lui avait demandé « Si nous sommes attaqués par la Russie, est-ce que vous viendrez nous aider ?» Et Trump a dit « Non, vous ne payez pas vos notes et donc je vous aiderai pas et même j'encouragerai la Russie à vous attaquer. » Alors autant dire que tous les dirigeants européens sont en PLS parce qu'ils se disent, si Trump est élu, et il a de bonnes chances d'être élu parce que Biden n'est pas dans une forme olympique en face, il a dit récemment qu'il venait de voir Mitterrand qui est quand même mort en 96, donc il a quelques problèmes cognitifs. Et donc les dirigeants européens se disent, mais si Trump est élu et qu'il arrête l'OTAN, comment va-t-on faire pour se défendre contre la Russie? Et donc, il y a une très grande inquiétude, que ce soit la fin de l'OTAN, qu'il y ait un lâchage, et donc il y a vraiment une forte angoisse. En fait, l'OTAN, c'est quelque chose qui sert les États-Unis. Ça leur permet d'exercer une très grande influence en Europe, et je ne suis pas certain que Trump bazarde tout ça. En tous les cas, ce n'est pas toujours la volonté, ce ne sera pas la volonté du Pentagone. Et je pense que Trump fait plutôt ça pour demander aux Européens dépenser plus et acheter plus d'armes aux États-Unis. Il faut savoir que les dépenses militaires des pays européens ont très fortement augmenté et qu'en 2023, 63% des achats d'armes à l'étranger ont été faits pour les Européens aux États-Unis. Donc lorsque Trump dit que l'OTAN lui coûte cher, c'est faux. Ça rapporte beaucoup en termes d'influence, ça rapporte aussi beaucoup en exportation militaire. Mais Trump, lui, en fait, il dit ça pour se rendre populaire. Et le message qu'il envoie aux électeurs américains, c'est que on va dépenser de l'argent pour construire un mur pour empêcher les Mexicains de passer, plutôt que d'envoyer de l'argent aider les pays européens et aider l'Ukraine. Donc je ne pense pas qu'il mette fin à l'OTAN, mais par contre, il pourrait tout à fait mettre fin à l'aide militaire que les États-Unis accordent à l'Ukraine, parce que ça leur coûte cher, et que Trump préférera dépenser cet argent sur le territoire américain.
Et vous avez raison de le rappeler, effectivement, tout cela coûte très très cher. Merci et bravo pour ce billet d'humeur, mon cher Pascal Boniface. À très vite, avec autant de plaisir.
À jeudi prochain.
Avec autant de plaisir, effectivement, partagé. Merci, c'était le Quoi de Neuf. Et je vais continuer ce tour de table avec Faouzi Lelouch. Bonsoir, Faouzi Lelouch.
Oui, bonsoir.
Comment ça va ?
Ça va, ça va. Tranquille.
Je disais merci pour les M-Semaine. Hein.
Bon, avec ça va, plaisir,
tout va bien,
avec plaisir.
Tout va bien. Partagé. Ça va, vous, je sais que vous avez traversé quelques jours.
Des grippés.
Une grippe vous a assommé.
Ouais, c'est ce que
j'ai cru savoir. Ça va ?
Ouais. Quand ça vous touche.
Vous êtes d'un point ou pas ?
Entre les deux.
Entre les deux.
Entre les deux, mais on est là quand même. Tu vois.
On vous donne de l'énergie, vous inquiétez pas.
Avec plaisir.
Gamal Abina, bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va ?
Comme d'habitude.
Comme d'habitude.
C'est beau.
Vous régalez là, je vois.
Bah oui, il nous a apporté de quoi nous substanter, ça fait plaisir.
C'est bien, c'est bien. C'est bien. Absolument, absolument. Jérôme, je vous disais, juste avant de lancer les sujets là, effectivement, vous étiez emporté par, galvanisé même, surtout par ceux qui vous ont soutenu, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui ? Comment vous voyez le curseur ? Vous le voyez comment ? Parce qu'aujourd'hui, le monde change. La politique évolue, la société, on s'en préoccupe de plus en plus. Vous, comment vous voyez les choses là à terme dans les prochaines semaines ?
Très compliqué.
Très compliqué.
Très compliqué, comme je le disais avant de l'émission, on en discutait. Faut que les gens entendent juste une seule chose. Si les gilets jaunes ont servi à quelque chose au début du premier quinquennat de Macron, c'est de l'éviter de dérouler à pleine puissance tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Mmh. On a été ces petits cailloux dans la chaussure de Macron qui l'a empêché, si tu veux, de mettre en place tout ce qu'il met en place, toutes ces lois liberticides, tout ce déni de démocratie, toutes ces petites réformes qui aujourd'hui font saigner du nez l'ensemble des Français, que ce soit les retraités, les travailleurs qui n'en ont pas pour leur argent, et bien au contraire, ont des difficultés aujourd'hui pour joindre les deux bouts. Pendant qu'on nous donne des leçons de vie à ne pas faire grève et à toujours travailler plus, parce que, je le rappelle, c'est un devoir, par des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie et qui ont l'autofaculté de s'augmenter de 300 à 700 euros pour des frais de vie. Mmh. Donc forcément, aujourd'hui, on ne peut que être pessimiste sur l'avenir et d'essayer d'être optimiste, à essayer de galvaniser d'autres personnes, si tu veux, pour rentrer dans cette lutte, parce que ce qui est en train de faire du pays de ses lumières, ce pays du mère patrie des droits de l'homme, la lumière est en train de s'éteindre.
Est-ce que vous êtes en train de, vous m'arrêtez si je me trompe, est-ce que vous êtes en train de nous laisser dire ou tout simplement que vous allez revenir sur le devant de la scène là ?
Mais je suis jamais. Alors si déjà,
que vous allez de nouveau endosser le rôle de celui que vous avez été, c'est-à-dire cette grande figure emblématique des gilets jaunes.
J'ai du mal avec ces métaphores de revenir sur la scène parce qu'on n'est pas dans du spectacle, on est dans la vie réelle aujourd'hui. C'est pas du spectacle, hein. Nous, on vit Koh-Lanta tous les jours, hein. C'est-à-dire que la plupart des Français aujourd'hui ont un coquillage de riz par jour, ok. La plupart des Français ont du mal à se loger, ont du mal à se chauffer et vont s'embrouiller pour un grain de sable. Donc le Koh-Lanta, on le vit tous les jours, sauf que c'est pas du spectacle, notre vie. D'accord ? Et le problème aujourd'hui des Français, si tu veux, et c'est ça qui fait que je continue, c'est cette espèce de déresponsabilisation d'une majeure partie des Français, à l'échelle de, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, où tu n'avais que 5% de résistance, quand aujourd'hui, factuellement, je te donne un exemple précis, 97% des travailleurs étaient contre la réforme des retraites, 85% des Français étaient contre la réforme des retraites, et tu n'as que 3 millions de Français dans la rue pour 20 millions de travailleurs. Ça s'appelle de se déresponsabiliser. Aujourd'hui, tu crois, il y a des gens qui pensent que Rodriguez, les gilets jaunes, Faouzi et tant d'autres personnes qui sont dans la lutte, c'est leur job. Leur métier, c'est d'aller dans la rue, de gueuler, de revendiquer. Moi, mon métier premier, c'est vendeur de jouets. Si à un moment donné, tu es là en train de me poser la question, ils sont où les gilets jaunes ? Je te répondrai qu'il est dans ta boîte à gants. Et que si t'as pas la faculté de le sortir parce que t'attends que Jérôme ou Faouzi mette son gilet jaune pour aller gueuler dans la rue et que tu puisses bénéficier des fruits
potentiel qu'on pourrait nous gagner, ça suffit. Et je parle de toute catégorie socio-professionnelle, de gens qui m'ont même de la thune et qui viennent me voir en me disant mais c'est pas normal, l'électricité augmente.
C'est plus du tout le même Jérôme Rodriguez qu'on a connu il y a quelques années. Là, j'ai l'impression que c'est le
Adil,
un autre Jérôme, plus exaspéré, plus énervé, plus remonté.
Parce que les choses vont de mal en pis. Aujourd'hui, tu sais pertinemment, en France, à l'échelle de la région parisienne, quand il va te tomber 0,05 cm de neige, tu vas te retrouver le cul dans la neige à prendre froid pendant 4 heures sur le périph. Les gens le savent. Mais ils prennent leur bagnole et vont conduire. Et vont se mettre sur l'autoroute à se mettre à gueuler parce qu'on n'a pas de déneigeuse. Une déneigeuse pour quoi faire? Qui nous coûte 3 millions d'euros sur nos impôts à l'année pour ne pas rouler, pour 10 ans, pour une neige tous les 10 ans, au lieu d'aller gueuler pour avoir un scanner à l'hôpital Pompidou. Excuse-moi, aujourd'hui j'ai la faculté d'attendre que la neige fonde. Je suis pas certain que mon cancer va fondre. Et que j'aurais plus besoin d'un scanner. Donc les gens se déresponsabilisent aujourd'hui à vouloir mettre sur le dos de l'État d'une putain de déneigeuse qu'on n'a pas, au lieu de mettre sur le dos de l'État un scanner qui permettra de soigner des cancers. Et c'est ça qui est regrettable aujourd'hui.
Ouais, mais est-ce que les gilets jaunes, ça existe encore aujourd'hui?
Les gilets jaunes existent.
Ils existent
encore? Sauf qu'on n'en parle pas. Déjà, on est des morts vivants. D'accord? Parce que pour des gens qui sont morts.
Vous êtes en train de me confirmer que le mouvement existe toujours.
Tu prends le rond-point de Bandol, tu prends le rond-point de Valenciennes, tu prends le rond-point d'Étampes. Alors oui, moi l'autre jour au quartier, il y a des gars qui sont venus me voir, à Tremblay, ils m'ont dit, Jérôme, on est passé dans une ville du 91, on a vu des gilets jaunes sur un rond-point. Bah oui frérot, il continue d'exister. Alors oui, manifestement parlant, pour jouer dans les termes, on va rester à 4, 5, 6 personnes, une dizaine de personnes, et sur des gros événements comme il y a pu y avoir, comme à Bandol, où là tu as des centaines de personnes qui ont pu reprendre par exemple le péage au 1er janvier de cette année, des manifestants. Alors oui, ils sont que 200 à Paris, mais tous les samedis, tu as une manifestation gilet jaune. Alors les gens qui me demandent, ils sont où les gilets jaunes? Ils sont là. Bouge-toi, parce qu'ils vont pas venir te chercher. Ils sont venus te chercher il y a 5 ans, ils se sont fait crever des yeux. Aujourd'hui, ils t'attendent sur leur rond-point. Ils t'attendent dans la rue. Arrête d'attendre les gilets jaunes. Arrête d'attendre ton chèque énergie. Arrête d'attendre d'un gouvernement qui t'a fait passer par 49.3 la fin de la fiscalité sur le gasoil non routier. Et t'as les mêmes agriculteurs qui vont demander à ce gouvernement.
On va en parler.
Tu vois, ce même gouvernement de les aider. Alors que c'est eux-mêmes qui les ont mis dans la merde.
Justement.
Tu demandes aux gens qui t'ont mis dans la merde de venir t'aider.
On va en parler justement. Je vais juste marquer cette première pause. Je voudrais faire un tour de table parce que est-ce que vous partagez l'analyse de Jérôme Rodriguez justement avec cet état, ce constat alarmant ou pas? Mais vous allez nous dire évidemment qu'est-ce que vous en pensez. 0153483000. Si vous êtes d'accord avec Jérôme Rodriguez, venez le dire. Effectivement, avec ce triste ou pas constat d'ailleurs, d'autres peut-être certainement viendront nous dire que évidemment qui se battent et qui continuent de se battre à leur manière. 0153483000. À tout de suite. Donc.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés, c'est avec Jérôme Rodriguez, avec Fawzi Lelouche, avec Hassan Bembarek. Bonsoir Hassan, je ne vous ai pas salué.
Bonjour, comment bonsoir.
Ça va?
Bon, tout très va bien. Très bien, coincé dans les transports en commun.
C'est un peu infernal en ce moment.
Gamal Abina, enfin nous allons parler, vous savez quoi? Faisons un tour de table d'ailleurs sur cette ambiance générale qu'a décrit tout à l'heure Jérôme Rodriguez. Fawzi Lelouche, je voudrais vous écouter, et puis Hassan et ensuite Gamal.
Bah, je vais juste rajouter le fait qu'on existe réellement, on n'est pas des extraterrestres, on sort pas d'une fiction. Vous êtes tous concernés, vous avez tous des problèmes dans votre quotidien, personne ne les règle pour vous. Donc vous êtes toujours obligés de vous battre, faire des sacrifices, choisir, faire les bons choix, sinon la sanction tombe direct. Et le problème, on est tous responsables, et on a tous cette responsabilité d'avoir délégué le pouvoir à des gens qui ne le méritaient pas. Et nous, les Gilets jaunes, on a essayé de sortir et de dénoncer tout ce qui nous a semblé être dénonçable, injuste. Voilà, on l'a fait.
Et pourquoi vous ne pas vous lancer dans la politique, par exemple? Tiens, Jérôme, pourquoi vous ne vous lancez pas dans la politique où vous
faites... Tu sais quand... Je vais... Attends,
les élections avant d'aller européennes qui arrivent, là.
Ouais, non, mais les Gilets jaunes sont sortis dans la rue parce qu'ils mettaient en défiance l'ensemble des politiques.
Oui, mais
j'ai eu la chance de les fréquenter, ou alors la rigueur, la malchance de les fréquenter pour certains, parce que sur des phénomènes de récupération, les mecs, ils sont contents de venir faire une photo avec Rodriguez ou Fauzi comme si tu mettais une paire de Nike. D'accord? Sauf que ces gens-là, c'est un monde de putes. Je suis désolé. D'accord? Et je suis pas assez pute pour rentrer dans ce monde-là. Si à un moment donné, t'as pas la faculté d'arnaquer les gens, rentre pas en politique. Si tu es sincère et que tu prends des décisions de cœur non stratégiques, tu ne feras pas crédit. Et les gens ne sont pas prêts à ce genre de politique.
La plus grande difficulté aujourd'hui pour le simple citoyen, c'est la confiance.
C'est ça.
Et franchement, je ne vois pas en quoi ils méritent notre confiance. Tous ceux qui nous ont représentés, qui disent nous représenter,
ouais,
alors qu'ils ne représentent que leur intérêt. Deuxième chose, je te dis honnêtement, il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis pour se battre. Et ceux qui sont sortis pour se battre, à un moment donné, tu as le revers de la médaille. Tu es fatigué, tu perds des proches autour de toi, tu perds des choses, tu perds un travail, tu perds en économie. C'est du temps que tu perds aussi, que tu partages pas avec tes proches, des gens qui te voient dans la souffrance. Attends, quand tu sors en manifestation et que t'en as tous les jours, t'apprends l'autre, il s'est fait blesser, il est mutilé. Il y en a qui sont morts sur les. Moi, je tiens à rappeler à l'acte 9, on était déjà à 11 personnes qui étaient décédées pendant ce mouvement. 11 personnes. Parce que j'avais fait faire des cercueils à invalides. 11 personnes.
C'est beaucoup.
Quand je me rappelle le dernier mouvement qu'il y a eu des agriculteurs, l'hommage qui a été rendu à la famille qui a décédé pendant ce mouvement, je tiens à dire, ça n'en est pas moins grave, mais 11 personnes à l'acte 9. Les gens, ils étaient tellement, ils avaient tellement envie de dénoncer ce qui n'allait pas. Ils étaient tellement peu écoutés, peu entendus, peu considérés, et toujours exploités, et toujours sollicités, qu'ils en ont eu marre. Ils ont crié leur colère. Et aujourd'hui, personne ne peut l'ignorer. Alors celui qui l'ignore, qui veut l'ignorer, c'est qu'il a envie d'être aveugle et il se conforte un petit peu dans ce qu'il a, et surtout en égoïste et en espérant que les autres le fassent. Mais à un moment donné. Venez pas vous étonner si les choses ne changent pas pour vous. Et nous, ce qu'on regrette aujourd'hui, après 5 ans, tu comprends pourquoi on ne va pas tout de suite en politique ? Parce qu'on est fatigué. Et de deux, on a été décrié, on a été sali. Et je tiens à dire autre chose. Ça demande du temps, ça demande des efforts d'être impliqué dans un combat comme celui-là. Mais on l'a fait avec sincérité, avec engagement. On a tout donné. Il y en a qui ont donné... Regarde, il a donné son œil. Il y en a qui ont donné leur vie. Il y en a qui ont donné leurs jambes. Parce qu'on voit pas toutes ces mutilations qu'il y a eu. Et au mépris d'un gouvernement qui est censé normalement devoir nous protéger, protéger les personnes et les biens. Et aujourd'hui,
Gamal.
Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui va dans cette société. Toutes les corporations ne vont pas. Au lieu de s'unir, ils continuent à se battre et à tirer la couverture vers eux.
Mais peut-être, voilà. Oui, mais en même temps, il y a peut-être une raison, effectivement, et vous venez de la décrire. Gamal Abinay, ensuite Hassan et Mabarak, justement. Alors, Gamal.
Ce qui est intéressant, avant d'attaquer les sujets. Fauzi et Jérôme, la question qui est intéressante, c'est de dire protéger les personnes et les biens. Malheureusement, dans le système libéral, c'est protéger les biens avant les personnes. Et ce qui s'est passé dans le mouvement des Gilets jaunes, il faut quand même identifier la problématique. C'est pas des pauvres qui sortaient dans la rue et qui manifestaient. C'est souvent la périphérie de Paris. C'est souvent des gens qui étaient des travailleurs de classe moyenne en général, qui avaient un emploi stable, on dira, mais qui avaient anticipé quelque chose qui devient inquiétant, à savoir, ils avaient anticipé le fait qu'il y aurait une paupérisation et une dégradation, littéralement, sociale, pour la société, pour eux en particulier. Le déclassement dont on parle beaucoup. Alors, on parle beaucoup de déclassement des grands bourgeois vers un statut inférieur, mais on n'a pas anticipé le déclassement de la classe moyenne. Et ces gens de classe moyenne qui voyaient leur pouvoir d'achat grignoter par l'augmentation de l'énergie, donc nécessairement de tous les coûts de la vie, ont réagi en disant nous n'acceptons plus ces augmentations pour des motivations qui étaient écologistes. Il faut se rappeler quand même que c'était la motivation. On basque toujours une augmentation d'impôts par un beau geste écologiste où à l'époque on avait fait les vignettes pour les vieux. C'est toujours la même méthode utilisée par l'État. La problématique aujourd'hui qui est réelle, c'est que c'est un pays qui a pas d'argent, qui est surendetté, avec un technocrate qui est à la commande de ce pays, qui a été formé par la finance, par la banque, et qui fonctionne comme quelqu'un, pratiquement comme un robot, qui fonctionne en termes d'entrée, de sortie et de rentabilité. Or, la vie n'est pas rentable, je le répète régulièrement. Un vieux à l'hôpital qui a un cancer, ça a été évoqué tout à l'heure, il n'est pas rentable, il coûte à la société. Sauf que la morale, elle, doit l'emporter sur la rentabilité. Et le problème dans le système ultralibéral, c'est que ce qui l'emporte sur la morale, c'est le libéralisme, donc c'est la rentabilité. Donc tout ce qui n'est plus rentable, les hôpitaux, on le voit bien, où ils commencent à faire des dégraissages, les écoles de moins en moins argentées, les systèmes sociaux en général qui sont de plus en plus attaqués, tout ça fait que les Français de la base populaire qui ont compris le problème se sont sortis avec un gilet. Et là où ils ont été courageux, c'est là où je retire mon chapeau, c'est qu'ils sont sortis avec un marqueur identifiable immédiatement pour être frappés, violentés, attaqués. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce soit Jérôme ou d'autres qui ont été extrêmement violentés, c'est parce qu'ils étaient un peu visibles dans les médias, on sait très bien, mais surtout parce qu'on les voyait avec leurs gilets. Et au bout d'un moment, le mouvement s'est érodé parce que de plus en plus les gilets jaunes ne sortaient plus les gilets, ou ils le cachaient ou le mettaient dans un sac. Mais ce qui se passe, c'est que le pouvoir réussit un coup sur un segment de la société, sauf que maintenant il y a une multiplication avec les agriculteurs et d'autres corps de métiers qui commencent à se manifester, qui fait qu'ils ont une peur bleue de la contagion. Et moi j'ai envie de vous dire simplement à vous deux, que je connaissais déjà avant, c'est pas le problème, vous dire simplement une chose, c'est que je pense que si vous voulez coaliser vraiment de façon névralgique un mouvement social massif, il faut pas compter sur les syndicalistes parce qu'ils ils font leur travail.
Ça c'est sûr.
Il faut surtout compter sur le fait qu'il y a de plus en plus de mécontentement et qu'il faut capitaliser sur ça pour créer un rapport de force. Et je pense que des leaders comme vous qui sont visibles, même si les gilets jaunes n'en voulaient pas de leaders, ces leaders-là peuvent apporter quelque chose à un mouvement qui serait massif. Mais il faut travailler là-dessus et c'est difficile maintenant de dire à des gens.
C'était ma question, justement, 5 ans de comment capitaliser, effectivement.
Oui, mais justement, 5 ans de difficulté, c'est compliqué de demander.
Hassan, tout à fait. Hassan Ben Barak.
Écoute, tout simplement, en ce qui concerne le mouvement des Gilets jaunes
bon, à titre personnel, hein, donc étant responsable d'une structure dans les banlieues, on avait donc mené des actions au titre de Gilets jaunes de banlieue pour essayer de raccrocher le mouvement, en tout cas en partant du constat qu'en fin de compte, les revendications qu'il y avait dans les quartiers populaires, où il y avait des populations paupérisées, rejoignaient les revendications des Gilets jaunes. Et donc, on a essayé de faire des actions. On avait même déposé une première demande de manifestation sur les Champs-Élysées, puisque la première a été déposée au nom du collectif Banlieue Respect. Et on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'il y avait une volonté des médias d'ignorer qu'il y avait dans les banlieues des gens qui se reconnaissaient dans le mouvement des Gilets jaunes et qu'il y ait une convergence. Et je pense que ce qu'ils ont eu peur, les pouvoirs publics, c'est qu'il y ait une convergence à la fois entre des gens de banlieue et les représentants, en tout cas les Gilets jaunes, qui étaient plutôt de la France profonde ou des gens qui travaillaient.
C'est une fausse vérité. Hein.
Non, ouais. Parce que
Jérôme Rodriguez. Et ensuite, après, il faut qu'on apprenne. On parle des agriculteurs.
95% du territoire, ouais. On va dire qu'il est provincial. On va retirer le phénomène parisien. D'accord. Ouais, okay. Mais les Gilets jaunes parisiens, si on peut se permettre les Parisiens, ce n'est pas des Parisiens purs. Ouais. Ce sont la banlieue et la proche province, type 60, qui venaient manifester sur Paris. Moi, je suis né au quartier, à Tremblay en France. Je suis né à Montreuil. Il n'y a pas plus revendication identique aux gens de quartier, à ceux qui vivent dans les quartiers. Fawzi vit dans les quartiers. On s'inscrit totalement dans.
Priscilia aussi.
Dans.
Oui, mais ce que j'entendais, Non, mais ce que j'entendais, c'est avec toutes les tout ce qui s'est passé en 2005, 2007, tout ce qu'on entend, toutes ces organisations de banlieue, excusez-moi, bon, généralement, qui regroupent des gens de la diversité. Je parle des beurs, des blacks, tous ceux qui avaient un peu bougé. C'est vrai qu'il y avait une peur des pouvoirs publics de voir ces gens-là qui sont assez radicaux, lorsqu'ils sont dans l'action, qu'il y ait une convergence entre ces Gilets jaunes et les gens des banlieues, en tout cas de ces quartiers, parce que sinon la situation serait devenue totalement intenable.
Incontrôlable.
Elle l'a été sur les premiers actes, parce que la banlieue était là avec nous.
Oui, voilà.
Tu avais trois phénomènes de violence qu'on pouvait catégoriser, Black Blocs, Antifa et banlieue, avec des phénomènes de violence différents, parce que les attaques ne sont pas les mêmes. Moi, je l'ai vu de mes deux yeux à l'époque. Ouais. Sans faire de jeu de mots, il y avait, sauf que d'une minute à l'autre, d'un acte à l'autre, la banlieue a disparu.
Oui,
mais
voilà.
Quelles sont les raisons? Je ne sais pas, j'ai pas pu les étudier et avoir un bilan.
J'aimerais juste préciser que tu fais.
Fawzi Lelouch.
Tu fais.
La jeunesse.
Tu fais référence aussi aux agriculteurs, à la province et tout ça. Ouais. Ils étaient là au début, hein. Les chasseurs, les agriculteurs.
Non, mais ce que je veux simplement dire. Et
tout à l'heure, tu as dit effectivement, quand les gens, en fin de vie, ils ont un cancer, ça rapporte pas, mais ils ont cotisé toute leur vie.
Si, ça rapporte un cancer. Un cancer à l'industrie pharmaceutique, c'est 120 000 euros de chiffre d'affaires en moyenne. Donc ça rapporte pas l'État.
Non, mais je veux dire simplement qu'il y avait des organisations de banlieue qui avaient une conscience politique, qui ont estimé qu'il y avait une fenêtre stratégique de faire une alliance avec cette organisation des Gilets jaunes pour essayer de porter des revendications communes.
Oui, oui.
Et qu'à un moment, on a senti que de la part des médias, il y avait une volonté de ne pas en parler, même de dire qu'en fin de compte, la banlieue ne se mobilisait pas derrière.
Jusqu'à inventer de dire les dealers aux jeunes de rester au quartier.
Messieurs, je voudrais qu'on aborde, parce qu'il y a pas qu'il est 18h, 19h28. Non, il faut absolument qu'on aborde.
D'une
phrase, vraiment. Parce que je veux qu'on aborde des sujets, c'est du moment-là.
Non, mais c'est très très court.
Même si c'est passionnant. Allez-y, d'une phrase.
D'une phrase, simplement pour rappeler quand même qu'une chaîne de télévision était la seule à avoir couvert du début à la fin les Gilets jaunes, c'est RT France.
Exactement.
Et c'est elle qui a amplifié le phénomène, et c'était quand même une liberté d'expression qu'on a perdue.
Ah oui, ça c'est sûr.
Et qu'on soutient encore.
Emmanuel Macron a menti pour calmer les agriculteurs, ça vous savez qui le dit, il considère, c'est Sébastien Chenu. Sébastien Chenu, j'ai pas besoin de vous le dire, qui c'est, effectivement, une personnalité politique. Alors que la colère aujourd'hui des agriculteurs, c'est-à-dire des Gilets jaunes, des agriculteurs, elle est ravivée par des promesses gouvernementales de l'exécutif qui sont jugées, figurez-vous, insatisfaisantes aujourd'hui. Jérôme Rodriguez. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec Sébastien Chenu? Je sais que c'est pas à votre bord politique, mais bon, cela dit, les agriculteurs, eux, ils considèrent que les promesses, les paroles et les paroles.
Alors franchement, je vais être un petit peu cinglant, mais quand on parle de révolte paysanne, je dirais qu'on nous a menti à l'école, parce que ça n'a pas la même gueule. Hein. Faire un petit tour à Rungis et rentrer à la maison, s'il te plaît. Quand t'as Jérôme Bail qui dit « j'ai laissé la main au syndicat », non, ils t'ont juste bouffé la main et t'es en train de tout perdre. Ce qu'il y avait de magnifique et qui pouvait être mis en relation avec les Gilets jaunes, c'est de pouvoir faire abstraction de ces élites, parce que l'origine de Jérôme Bail, c'est à une sortie de réunion, il n'a pas été satisfait par ces élites syndicales, il a décidé de prendre l'autoroute. Ok. Et ça, on ne pouvait pas s'inscrire t'inscrire sur le même stéréotype que gilet jaune. Sauf qu'à un moment donné, quand tu te prends des insultes de la part de deux blaireaux d'agriculteurs qui ne représentent pas la majorité par rapport au message que j'ai reçu, qui nous insultent.
Petite clochette au passage.
Non, mais excuse-moi, à un moment donné, on nous a traités de feignants. D'accord ? On nous a traités de sous-merde par deux agriculteurs à la télé, sans encore avoir un droit de réponse sur cette fameuse pluralité des médias.
Ouais.
D'accord ? On se fait insulter sans permettre de réponse. Alors que nous, on est sortis dans la rue exactement pour les mêmes choses.
Exactement. Hein,
un peu de dignité, un petit peu de personnalisation et donner de la valeur à notre travail. Parce qu'à un moment donné, quand le mec il a fait pousser ses carottes, bah, il faut bien que quelqu'un les cuisine derrière.
Oui.
Puis il faut bien que quelqu'un les mange. Donc à un moment donné, un petit peu de respect pour l'ensemble. Donc il pouvait y avoir une convergence. En tout cas, au niveau de la colère.
Ils se sont manqués.
D'accord.
En gros, c'est ce
parce que
c'est très dire. Ils se sont manqués.
Ça parle de travail, de valeur du travail, ça parle de taxes. Putain, on parlait de quoi, nous, gilets jaunes ?
Absolument.
Et tout le monde parle de la même chose. Mais chacun se bat sur son précaré. Le lundi, c'est les agriculteurs. Le mardi, c'est les enseignants. Le mercredi, ce sera la SNCF. Et chacun sa. Hey, tu sais quoi ? Je suis désolé. Chacun sa merde. Et aujourd'hui, on a appris aussi chacun sa bouse.
Eh bien. Vous parliez de convergence tout à l'heure, maintenant tout d'un coup, chacun sa merde.
Non, convergence au niveau des idées, le problème, c'est sur tous les groupes de lutte. Et c'est là ma plus grande frustration. C'est de s'apercevoir que dans tous les groupes
et
de
lutte. Et vous assumez une idée, Gamal Abinay, hein,
dans tous les groupes de lutte, c'est que tu as trop de prophètes. Tu vois ? Moi, j'ai au moins l'humilité de te dire que les gilets jaunes ont peut-être eu la prétention d'avoir la vérité. J'ai pas la vérité. Qui te dit que ce que je propose va améliorer le quotidien des gens ? Au moins, je reste humble. Sauf que dans tous les groupes de lutte, tous les groupes politiques, tous ceux qui sont dans le combat aujourd'hui, t'as trop de prophètes. Laisse-moi passer, j'ai la bonne idée, tu vas fermer ta bouche. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Si on arrive à converger autour de la colère, on pourra converger.
Alors,
converger
justement.
Autour des idées, c'est juste pas possible parce que même quand on est d'accord sur la même idée, vu que c'est l'autre qui prend la parole, eh ben on va faire en sorte qu'il se taise. Et c'est ça qui est dégueulasse. Si à un moment donné, on arrive à se rejoindre tous sous une même bannière, et à défaut d'avoir un leader, comme on le disait tout à l'heure, mais d'avoir du leadership, quelqu'un qui a la possibilité de lever la main et d'entraîner des gens, on y arrivera.
La colère des agriculteurs ?
Surtout la colère des agriculteurs, elle est partie de la base. Elle a essayé d'être récupérée par les syndicats.
C'est fait.
Qui leur ont dit « rentrez chez vous s'il vous plaît », ils sont bien rentrés chez eux. Pourquoi ? Bah parce
que la colère elle est toujours là. Hein.
Non mais les problèmes ne sont pas réglés. Comment la colère va pas être là ? Tu sais, une fois que tu rentres chez toi,
il y a le salon qui arrive, les amis. Hein. Le salon d'agriculture, c'est ça.
Va voir la révolte paysanne. Va voir la révolte paysanne de 1907 où t'as même les policiers qui se rentrent en mutinerie, qui refusent de tabasser les vignerons. Aujourd'hui, ils prennent un malin plaisir à nous tabasser quand on vient réclamer.
Le salon de l'agriculture, c'est une vitrine. C'est comme t'as un magasin, t'as la vitrine. Et normalement, c'est ce que t'as dedans. Sauf que quand ils rentrent chez eux, ils ont les mêmes problèmes. Personne les résout. Et le vrai contre-pouvoir aujourd'hui par rapport aux politiques, ceux qui prennent les décisions, c'est les syndicats. Je suis désolé, ils n'ont pas fait la même erreur qu'avec nous, parce que nous, ils nous ont carrément délaissés quand on est sortis dans la rue. Là, ils se sont dit, on va s'accrocher directement au mouvement. Sauf qu'ils les ont fait rentrer chez eux. Où allait la révolution sur Paris ?
Ils font négocier
où allait
le patron de
les Champs-Élysées, où ils ont peur de quoi ? D'abîmer leur petit camion ? Leur petit camion qui leur coûte 200, 300 000 euros, c'est comme ça qu'ils les tiennent.
Vous êtes sévère avec les agriculteurs.
On est sévère.
Non, on n'est pas sévère. On est sévère avec ceux qui les représentent. T'as le patron de Le Sieur qui les a bien huiliés et ils se sont fait glisser.
Moi, je suis compatissant.
À un moment donné, comment tu peux être représenté par quelqu'un qui n'est pas monté sur un tracteur depuis des années ?
Je suis compatissant avec des gens qui produisent et qui nous amènent, ce qui nous permet de nous nourrir aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, ces gens-là ne vivent même plus de ce qu'ils produisent. Pourquoi ? Parce qu'il y a des interférences tout au long du parcours d'acheminement des marchandises, de la production, de la vente et jusqu'à la distribution. Et le problème, il est là.
On marque une seconde pause.
Et
le problème est là.
Pour que ça fonctionne, il faut qu'ils s'émancipent et qu'ils arrêtent d'attendre des syndicats. Eh, s'ils avaient voulu, à Paris, je peux te dire qu'ils auraient fait quoi ? Ils étaient débordés sur Paris.
Pause, on se retrouve dans une poignée de minutes, justement. On en parle, 01 53 48 3000 avec le reste des débatteurs. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h, 20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Ils ont besoin de ça.
Oui, ils ont besoin de ça, bien sûr. On est d'accord. On disait que les auditeurs, oui, on va ouvrir l'antenne. Mais bon, je profite de la présence des messieurs qui sont tellement, évidemment, rarement ici. 19h38 avec Gamal Abinay, Hassan Bembarek, avec Jérôme Rodriguez et enfin avec Fawzi Lelouch. Kin, je n'ai pas entendu sur la colère. Gamal et enfin Hassan. Messieurs.
Sur la colère.
Parce que je veux qu'on parle aussi de la grève SNCF.
Sur la
colère
des paysans. Le problème des paysans, c'est que le monde rural a fondu comme neige au soleil en 30 ans. À l'époque de Mitterrand, en 86, ils étaient sortis, c'était extrêmement violent. Ça s'est bagarré, il y avait de la peur et la police a reculé parce qu'il y avait des directives. Là, ils sont plus que 410 000. À l'époque, c'était plus d'un million. 410 000 dans des conditions dégradées. Il y a un suicide par jour, c'est ça le chiffre de fou. Donc ils souffrent, la paysannerie souffre. Mais le problème, c'est qu'on ne parle pas des vraies choses. C'est-à-dire qu'ils ont parlé de tout sauf du vrai sujet. On parle d'énergie, d'augmentation, c'est vrai que les gilets jaunes, il y a rien. Mais il n'y a pas seulement ça. Il y a la grande distribution qui s'en met plein les poches et eux, ils vendent à des prix à perte. alors que la grande distribution multipliée par 10 ses gains. Et le problème, c'est que dans un pays où De Gaulle avait institué le contrôle des prix, il a eu ce courage, qui était droite hein, quand même, on n'est pas capable de dire à ce système qui est inégalitaire, oui, on va contrôler le prix à la production et à la distribution pour faire en sorte que le consommateur ne soit pas lésé, que le vendeur ne soit pas lésé et que le distributeur gagne dans des proportions raisonnables. Eh bien, aujourd'hui, je comprends la colère paysanne. Le problème, c'est qu'ils ont été, effectivement, ça a été dit tout à l'heure par Jérôme, ils se sont fait avoir. Ils ont cru aux promesses que Macron fait souvent parce qu'il est très très bon là-dessus en promesses. Et ils croient encore que la PAC va les aider parce que c'est vrai qu'elle finance une partie de leur déficit. Ils croient qu'on va assouplir les obligations liées à l'écologie et au climat. Donc, toujours pareil, des contraintes. Et ils pensent qu'ils vont être entendus alors qu'en réalité, on est en train de faire converger, de compresser le monde agricole pour qu'il y ait de moins en moins de voix qui s'entendent. Et c'est vrai que la convergence des luttes est difficile parce qu'il y a les syndicalistes entre vous et eux. Exactement. C'est ça qui a fait le barrage. Et les syndicalistes ont totalement désamorcé cet extraordinaire mouvement qui faisait peur. J'en donne juste
je pense que les insultes aux gilets jaunes, ça a été mandaté par le gouvernement et les syndicats.
Ça a été amplifié.
Je pense que tu vois, ok les gars,
mais
vous laissez aller sur les autoroutes, mais par contre vous nous jartez les gilets jaunes.
Ils ne représentaient rien. Un exemple très concret, les gilets jaunes prennent le périph, ils se font taper dessus, les paysans bloquent les autoroutes.
Oui, on bloquait pas les autoroutes.
Tout à fait. Alors que eux, ils ont bloqué les péages. Bon, ils ont pas été attaqués. Pourquoi? Parce que Darmanin, reçu une directive, il a dit non, on est sympa, on est avec eux, on est gentil. Il n'y a pas eu la moindre répression les concernant. Donc c'est en ça que j'ai dit, effectivement, le monde agricole est puissant et en même temps sa faiblesse, c'est les syndicats.
Exact, oui, c'est vrai. Hassan?
Ben Barak, je suis d'accord avec ce que dit Galal.
Oui, bah parlons de la SNCF alors.
Mais bon, pour résumer, je pense que peut-être la finalité des paysans, c'est de vivre du travail, de dégager un salaire décent.
Voilà. Ouais. Tous, pour pouvoir la majorité ne dégage aucun salaire. Voilà,
mais tout le monde,
il ne faut pas l'oublier, ça aussi, messieurs.
Et pour dégager un salaire décent, il faut pouvoir, je pense, grignoter les marges de ceux qui les intermédiaires.
C'est exactement, c'est les intermédiaires.
C'est les intermédiaires qui s'en mettent, excusez-moi l'expression, plein les poches. Et faudrait peut-être faire en sorte que ces gens s'en mettent moins les poches. Et qu'on paye.
Mais ça a été prouvé.
Les agriculteurs.
En juin 2023, vous avez Édouard Leclerc sur le plateau d'Apolline de Malherbe qui se plaint de l'augmentation des prix, qui demande une enquête sénatoriale.
Okay. Et pourquoi
l'enquête sénatoriale a été mise en place et il s'est avéré que c'est Leclerc qui a augmenté les prix. Okay. C'est marrant, on l'a pas entendu chanter Mimi. D'accord? Parce que moi, j'ai travaillé 20 ans dans les grandes surfaces. Donc je connais le mécanisme. Ah ouais. À un moment donné, si tu as Leclerc qui fait plus 30% de chiffre d'affaires, comment ça se fait que le producteur ne fait pas 30% de chiffre d'affaires?
Les marges arrière.
D'accord? Il y a un truc. Oui, et puis les pages de catalogue à 30 000 balles, les gratuités, les remises de fin d'année. T'inquiète pas que les mecs qui ont des Leclerc, parce que c'est des propriétaires en nom propre. En hélicoptère en Normandie.
Ça sonne, regardez, ça sonne. Priorité évidemment aux auditeurs.
Donc la caissière gagne 800 balles.
Amal de Créteil. Bonsoir Amal.
Oui, bonsoir, c'est Anan de Créteil, mais c'est pas grave.
On vous écoute Anan, on vous écoute. Bienvenue.
Bonsoir. Comment allez-vous?
Très très bien, très bien. Tout le monde vous écoute. Oui. Jérôme Rodriguez, Fawzi Lelouch, Kamal Abina, Hassan Bembarek. Oui. On vous écoute Anan.
Je vous écoute depuis tout à l'heure et je suis toujours fasciné de toute façon par votre émission qui est toujours pertinente et riche de sens.
Merci à vous, Anan, et merci pour votre fidélité.
Alors, c'est normal. En fait, ce que je voulais demander, c'est que peut-être on se trompe de combat, parce qu'on a l'impression qu'en fait, on parle du gouvernement, mais n'est-il pas plus intéressant de s'attaquer directement, en fait, à ceux qui, soi-disant, nous donnent l'argent? Parce qu'eux, ils nous promettent des choses. Les banquiers, c'est eux qui nous promettent des choses. Ils sont là à nous dire, on va vous donner, on va vous nourrir, on va vous aider, on va vous prêter, mais au final... C'est eux qu'on devrait combattre, je dirais. Et à travers ça, combattre aussi le gouvernement. Parce que quand même, c'est eux qui empruntent l'argent quand même aux banques. Et on est tenu par les banques. Je ne sais pas, je pose la question.
Jérôme Rodriguez, qu'est-ce que vous lui répondez à Anan de Créteil?
Je sais pas si
merci Anan pour la pertinence de la question.
C'est forcément les banques qui sont à l'origine de tous nos malheurs, mais en tout cas aujourd'hui, il est clair de constater que l'ensemble des gens qui dirigent la politique ne sont pas des hommes politiques qui vont faire le bien de la France, ce sont plus des communicants et des banquiers qui nous mènent droit dans le mur. On a eu une polémique sur le fait que la moitié du gouvernement sont millionnaires. Moi, j'ai rien contre les millionnaires. Tu n'as volé personne, tu n'as tuné personne. Fais ton argent. Mais ce sont des gens qui sont millionnaires, qui n'ont jamais travaillé, qui ont réussi à être millionnaires grâce à l'argent de nos impôts ou parce qu'ils sont bien nés et qui vont nous donner des leçons sur le devoir à nous d'aller travailler. Si aujourd'hui vous prenez le CV de Gabriel Attal qui intime l'ordre aux Français, qui les traite de feignants, le Français devient feignant à partir de 1 200 euros. Donnez-lui 3 000 balles par mois, je vous garantis qu'il va aller se démener pour aller travailler. D'accord. Donc, à un moment donné, quand ces gens-là viennent nous donner des leçons au-delà des banques, ça suffit. Je pense pas que.
Gamal.
C'est un tout qui fait.
Gamal.
Mais je pense que Hanan, je l'invite à se renseigner un peu mieux. Elle utilise un terme qui est pas approprié. C'est pas les banques la problématique, parce qu'il faut pas confondre banque centrale qui sont les mamans des banques et qui effectivement impulsent la politique monétaire, les taux d'intérêt et le financement de l'État. L'État n'est pas financé par les banques depuis très longtemps, depuis 73. L'État est financé par les marchés financiers. Donc, on ne parle pas des banques, on parle des secteurs financiers, de la financiarisation de l'économie. C'est les fonds de pension américains, c'est les fonds privés, c'est ce qu'on appelle les institutionnels qui financent l'État et qui financent les emprunts d'État. Donc l'État s'est endetté parce qu'il va chercher de l'argent dans le secteur privé pour pouvoir financer, alimenter le secteur public. La problématique aujourd'hui à M. Macron, c'est qu'il le sait et qu'il fait tout pour réduire le train de vie d'État, donc nous en l'occurrence, pour faire des économies d'échelle considérables et réduire la dépense publique à destination de ces gens-là pour anticiper peut-être le remboursement de la dette, parce qu'il faut savoir, et c'est le plus important, que le troisième poste aujourd'hui de l'État en termes de budget, et c'est gravissime. En France, c'est un État qui est surendetté, plus de 100% du PIB. Le troisième pas, c'est le remboursement de l'intérêt de la dette. C'est même pas la dette, c'est juste l'intérêt. C'est vous dire que l'argent qui est gaspillé là-dedans, au lieu de geler le règlement de la dette, eh bien, il va directement dans les poches des financiers, de ceux qui financent. Et ceux qui financent, c'est pas les banques.
La vraie question, merci Anan. Merci d'être intervenu.
Juste pour répondre à Anan aussi, à un moment donné, même si la banque, elle te prête 3000 milliards, parce que c'est le montant de notre dette. On a emprunté 3000 milliards. C'est énormément d'argent. Comment ça se fait qu'on a des hôpitaux dégradés, des écoles qui ne fonctionnent pas, des administrations publiques et privées qui ne fonctionnent pas? À un moment donné, on a donné des milliards à des gens qui ne savent pas gérer, et on va demander à des familles françaises qui gèrent le moindre centime jusqu'à la fin du mois de faire encore des efforts. C'est pas l'argent qu'on a emprunté, c'est ceux qui l'ont mal utilisé. Alors, quand toi, tu empruntes ton argent autre pour sujet, ta maison, Jérôme, c'est pour pouvoir la payer.
Jérôme et messieurs, autre sujet, autre colère notamment, c'est la grève. La grève et les syndicats, la grève SNCF qui entament une grève dès ce week-end. Messieurs, un tour de table. Fawzi Loulou, justement. Alors là aussi, hein, un vrai souci avec les transports, et notamment là on parle de la SNCF.
Ouais, bah, toujours les mêmes soucis, hein. Les gens pour essayer de pouvoir gagner décemment leur vie, être considérés dans le travail qu'ils fournissent, demandent des augmentations de salaire, demandent des améliorations dans leurs conditions de travail, et à chaque fois ils sont pas entendus. Et au lieu qu'on leur donne ou qu'on lâche du lest parce que c'est mérité, parce que c'est eux qui produisent les richesses de ce pays, eh ben on les oppose. Et du coup on les oppose à qui? Aux consommateurs, aux concitoyens. Voilà. Donc du coup ça crée toujours cette opposition. C'est un peu comme le gouvernement, au lieu de nous répondre à nous, il nous mettait la police en face. Bah là il te met les gens. Voilà. Est-ce que vous êtes pour la grève? Est-ce que ça vous embête pas? Non. Est-ce que vous deviez aller en vacances? Oui, moi je devais aller en vacances. Est-ce que vous devez aller travailler? Oui, moi je devais aller travailler. Oh, c'est pas normal. Bon, je comprends, ils font grève. Ils font grève pourquoi? Oui, pour gagner mieux leur vie. Tout le monde comprend ça, mais personne veut qu'il y ait une grève. Donc à un moment donné, la responsabilité des entreprises, la responsabilité de ce système, tant qu'on valorisera pas le travail à sa juste manière, à sa juste valeur, on donnera pas ce qu'on doit donner aux gens par rapport aux efforts qu'ils fournissent, eh ben il arrivera des situations comme ça. Le seul problème aujourd'hui, c'est que la communication est faite pour que les gens s'opposent plutôt que les gens se réconcilient et trouvent des solutions ensemble.
Gamal Abina.
C'est le marronnier classique, hein, la SNCF, ça fait 20 ans que ça dure, 20, 30 ans maintenant. On a toujours des raisons de manifester pour des questions d'acquis sociaux importants pour eux, d'ailleurs, faut le rappeler. Mais en vérité, la problématique qui se pose, effectivement, c'est la dévalorisation du travail. Parce que là, on parle des cheminots, donc c'est un métier très dur, c'est un métier manuel, essentiellement, c'est un métier qui dégrade la santé. Donc là, une question de pénibilité. Et effectivement, de toute façon, sous les mandats Macron, on note que c'est en permanence des mouvements sociaux qui explosent et qui sont désagrégés. Et c'est vrai que le fait d'opposer la population par les médias, parce que dans les faits c'est pas vrai, aux mouvements sociaux, c'est de faire croire que finalement ça casse les pieds de tout le monde. Mais en réalité, ce qui casse les pieds de tout le monde, c'est les pressions qui sont faites, qui sont considérables au niveau fiscal, au niveau des salaires, au niveau du traitement, au niveau des CDI qui n'existent plus. Il y a que 20% de CDI en France aujourd'hui. Ces pressions-là sont considérables sur le travailleur.
Hassan Benbarek, et ensuite après je vais interroger Jérôme Rodriguez, et j'aimerais bien qu'on, je sais pas si on aura le temps, mais la situation à Gaza avec la situation humanitaire notamment. Hassan?
Écoute, tout ce que je vois, c'est que les Français, à la veille des vacances, sont pris en otage un petit peu avec ces grèves.
Bah oui.
Non, mais les gens pris en otage. Tu vas être pris en otage. Non, sérieusement, les gars.
Après que vous soyez pas d'accord,
c'est le mot. Il y a des gens qui ont été pris en otage justement.
Non, mais c'est une expression pour dire qu'à chaque fois à la veille des départs en vacances, on fait toujours pression, c'est toujours les
et c'est pas faux, c'est toujours au moment où donc, moi, là on est en pleine période de vacances.
Si tu fais un bordel au moment où ça casse les couilles à personne, je vois pas l'intérêt non plus, quoi.
C'est stratégique.
Oui, mais bon, je ne fais que dire que.
Allez-y, fond, allez-y, allez-y.
Non, mais bon, moi, si tu veux, je suis toujours un peu mesuré dans les propos. Tu me connais, hein, je suis quelqu'un de relativement mesuré. Moi, ce que je vois, c'est que, bon, vous avez pas mal de. Bon, alors, les agents de la SNCF ont décidé donc de se mettre en grève. Il semblerait que c'est les contrôleurs qui souhaitent changer leur statut. Bon, je pense que le salaire moyen d'un contrôleur, c'est à peu près 2000 euros, à peu près.
C'est ça,
2000. Donc là, ils ont réclamé une prime de 500 euros. Alors, ils sont pas trop d'accord puisque la prime a été accordée, mais ils voudraient que cette prime soit intégré dans le calcul de la retraite, d'accord ?
C'est ça.
Et tout ça, je pense que c'est des choses où on peut négocier, ils peuvent négocier. Mais faire ça à la veille, je dirais, du départ, alors qu'il y a des millions de Français qui veulent partir en vacances, et généralement même des gens dans des couches populaires, des gens dans des couches populaires.
Ouais, prendre donc, le train pour aller dans l'endroit, voilà, tout simplement, aller voir sa grand-mère.
À un moment, il y a un certain ras-le-bol, quoi. Voilà. Jérôme. Donc il y a plus malheureux, ce que je veux dire entre parenthèses, c'est qu'il y a plus malheureux que les agents de la SNCF ou de la RATP.
Alors,
faut arrêter de déconner, quoi.
Voilà. Vous avez un souci avec.
Les malheureux, c'est triste pour eux, mais ils voudraient quoi ? Que les autres aussi soient malheureux, ou alors il faudrait qu'ils soient heureux comme les autres ?
Non, c'est pas
ça. À un moment donné, quand on parle de la prime charbon, c'est-à-dire un billet de 200 balles en plus, qui se battent pour le garder. Ok, il n'y a plus de charbon, hein, ça roule à l'électrique, on est d'accord. Mais ils se battent pour gagner 200 balles de plus, deux caddies, il y a deux ans, parce qu'aujourd'hui, 200 balles, c'est un caddie et demi, et encore, je suis généreux. Et nous, on va gueuler contre eux pour leur dire ah ben non, faut qu'on leur enlève les 200 balles. Battons-nous pour avoir 200 balles comme eux.
Non, je ne gueule pas contre eux. Je dis simplement qu'il y a un moment. Il y a des corporations qui sont bien organisées, qui posent toujours des rapports de force, d'accord, qu'ils obtiennent souvent beaucoup de choses. Et je dis qu'il y a plus malheureux que ces gens-là, voilà, tout simplement. Et lorsqu'on voit le salaire moyen en France, bah, ils ne se montent pas à 2000 euros. Je veux dire qu'il y a des millions de personnes qui touchent des petits salaires et qui eux-mêmes, de temps en temps...
Et qui mériteraient d'être augmentés à la hauteur d'un
cheminot. Avant de rendre l'antenne, vous savez quoi, j'aimerais juste parler de la situation.
Non, attends, je veux juste finir sur les grèves. Moi, je ne peux pas aller à l'encontre de ça à un moment donné. Ils se battent pour ça.
Je sais que ça fait deux ans qu'il est sur la table.
Attends, je n'ai pas dit que les gars qui se battaient étaient responsables.
Non,
je dis simplement qu'il y a la direction de la SNCF, de la RATP, en tout cas la direction, ou ceux qui pilotent cette entreprise, d'accord, ont des responsabilités.
Mais ça fait deux ans qu'ils ont
dossier. Je vais juste finir sur une phrase. Si à un moment donné, il y a autant de mouvements de grève, d'accord, c'est que peut-être les syndicats ne répondent plus à l'attente de la base. Si à un moment donné on est perpétuellement en train de faire grève, c'est qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait à un moment donné. La base et aux travailleurs de se poser la bonne question de par qui ils sont représentés et de qui va négocier.
Je vais te dire pourquoi il y a autant de mouvements de grève. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir donc un salaire décent.
Normal.
Parce que il y a aujourd'hui une oligarchie en France, dans ce pays-là, où les mecs gagnent de plus en plus de pognon et se mettent de plus en plus de pognon dans les poches. Est-ce qu'il relève être totalement... Oui, mais non, ça relève être indécent. Je veux dire, tu as des gens qui gagnent énormément d'argent et tu as une grande partie de la population
qui crève
et qui galère.
Je dirais que les gens, ils ont plus de mal à pouvoir payer leurs charges déjà pour pouvoir à ce qu'il en reste un petit peu par rapport à ce qu'ils gagnent. Et je pense que faudrait revaloriser vraiment les salaires et améliorer les conditions de travail. Et s'il y a ça, si c'est résolu dans toutes les corporations, il n'y a plus de soucis en France. Hein.
On peut avoir un pour la vaccine.
Merci messieurs, merci infiniment. Vous reviendrez, Jérôme Rodriguez ?
Bah, si tu m'invites à dire avec plaisir.
Bien sûr.
Si tes auditeurs sont heureux de m'entendre.
Bien sûr qu'ils sont. On ouvrira davantage l'antenne la prochaine fois, effectivement. Mais là, je voulais vous donner la parole.
Fauzi, j'acte beaucoup.
Oui. C'est pas disparaître, Fauzi Lelouch.
Soutien Gaza.
Merci.
À toutes ces personnes qui sont sous les bombes.
À la barbarie en marche.
Voilà. Franchement, j'ai le sentiment que beaucoup laissent faire.
Soutien total à Gaza. Rappelons que l'extrême droite qui est à la tête de l'État israélien s'apprête à commettre un génocide de masse.
Merci Gamal Abida. Merci Hassan Ben Barak.
Je dis simplement que Biden est pris en otage par l'extrême droite israélienne et qu'aujourd'hui
Solal. Mais moi, je rends l'antenne là.
Moi je dirais soutien à Gaza et soutien à tous ceux qui sont sous les bombes, parce qu'il n'y a pas que Gaza où c'est la guerre, il n'y a pas que à Gaza où des enfants meurent sous les bombes, il y a le Soudan, il y a plein de pays aujourd'hui aussi qui sont en guerre, l'Ukraine, et on n'en parle pas aussi de tous ces gens qui souffrent de la guerre.
Merci messieurs, à la réalisation c'était Solal, merci à Solal et à Nabil notamment. Bilal Nenman, Time Sport, 21h c'est Vanessa, et ensuite demain matin c'est Kim qui prend le contrôle des pour vous réveiller. À demain avec autant de plaisir, mais vous savez ce qu'on dit ici tous les soirs. On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.